de suite le journal par Camille Magnard. Bonjour Camille.
Bonjour à toutes et à tous. C'est bien un moment historique dans lequel sont plongés depuis hier la Catalogne et toute l'Espagne. Hier soir, le Parlement catalan proclamait l'indépendance de la région. Trois semaines après le référendum illégal du 1er octobre, dans la foulée à Madrid, le Sénat espagnol déclenchait la mise sous tutelle des administrations catalanes et Mariano Rajoy qui annonçait la révocation des dirigeants indépendantistes. Des élections anticipées sont même prévues pour renouveler le Parlement de Catalogne. Ce sera le 21 décembre prochain. On le voit, tout va très vite. Et maintenant, beaucoup d'inconnus dans la manière dont cette reprise en main va s'effectuer. On en parle ce matin avec Marie-Hélène Ballestero. Bonjour à vous.
Bonjour.
En direct de Madrid, où la presse espagnole, Marie-Hélène, se pose en arbitre entre d'un côté la loi espagnole et de l'autre la rébellion catalane.
C'est bien ça, et de façon unanime, bien sûr, la Catalogne fait encore une fois ce matin la une de tous les journaux espagnols nationaux et régionaux. Alors tout d'abord, le quotidien El País qui titre « L'État vient suffoquer l'insurrection ». Le journal revient sur toutes les mesures adoptées par le gouvernement central ces dernières heures, la dissolution du Parlement catalan, la convocation d'élections le 21 décembre, la mise sous tutelle de l'autonomie catalane ou encore la destitution de tout le gouvernement catalan, y compris bien sûr le président Puigdemont. Dans son édito, El País insiste sur l'idée que la démocratie va prévaloir. La loi face à la rébellion, c'est le titre choisi par le quotidien conservateur La Razón, qui rappelle aussi dans son édito que l'heure de l'état de droit a sonné. Dans le quotidien El Mundo, on peut lire 55 jours de 155, un titre qui fait référence à l'article 155 de la Constitution, qui a été approuvé hier par le Sénat espagnol et qui va être appliqué seulement pendant 155 jours avant la tenue de ces élections régionales catalanes qui ont été convoquées hier le 21 décembre. Le journal conservateur ABC a choisi un titre beaucoup plus dur, l'Espagne décapite le coup, avec la photo en couverture de Mariano Rajoy et des deux leaders des deux formations de l'opposition, du Parti Socialiste Espagnol Sánchez et de Ciudadanos Rivera, qui ont constitué depuis plusieurs semaines ce qu'on a appelé le bloc constitutionnel face à la crise catalane. Et pour finir, le quotidien catalan La Vanguardia titre Rajoy met sous tutelle à la Generalitat afin de convoquer des élections le 21 décembre, mais dans son édito, La Vanguardia rappelle que les Catalans ont la parole.
Marie-Hélène Ballestero, merci à vous en direct de Madrid. J'ajoute que tous les pays membres de l'Union européenne ont adressé hier leur soutien à Madrid et au Premier ministre espagnol Mariano Rajoy. Seule l'Écosse, elle-même dans un processus d'autodétermination au Royaume-Uni, disait hier soir respecter la position des indépendantistes catalans. Et parmi ceux qui appellent à une médiation européenne au dialogue pour éviter que la crise ne s'envenime plus encore, il y a Jean-Luc Mélenchon, le premier des insoumis français, renvoie dos à dos les deux camps pour avoir refusé toute conciliation jusque-là. Jean-Luc Mélenchon qui est en ce moment à Athènes pour y préparer un front de gauche transnational aux élections européennes de 2019. Il veut tracer les contours d'une Europe sociale. Jean-Luc Mélenchon qui en a aussi profité pour répondre à Emmanuel Macron depuis Athènes même, où le chef de l'État avait critiqué il y a quelques semaines la France des fainéants. Sophie Delpont.
Jean-Luc Mélenchon se présente comme le porte-parole du peuple, en opposition à ceux qui sont venus ici faire de grandes phrases en référence à Emmanuel Macron.
Je viens, moi, vous apporter le salut de la France, celle que vous aimez et celle qui vous aime. Le peuple honnête et travailleur de France.
Réponse indirecte à la sortie très polémique d'Emmanuel Macron sur les fainéants, les cyniques et les extrêmes. Il encourage les Grecs à refuser le choix d'Alexis Tsipras de céder aux exigences de Bruxelles en acceptant la politique d'austérité malgré le référendum contraire en 2015.
Tenez bon, ne cédez pas. La catastrophe la plus grave qui soit arrivée à la Grèce, c'est la capitulation.
Depuis la tribune, il s'insurge face aux 8 milliards d'euros de bénéfices engrangés par les banques centrales des pays européens qui détiennent toujours de la dette grecque.
On n'a pas aidé la Grèce, on a aidé les banques et on a aidé les grands pays sur le dos des Grecs. Nous avons pris à la Grèce 8 milliards de bénéfices dans nos poches à nous. Les grands pays, l'Allemagne, la France, ceux qui sont le cœur du mécanisme européen d'assurance. C'est pourquoi je m'adresse à mon propre gouvernement et je lui dis, Monsieur Macron, Monsieur Édouard Philippe, il faut rendre à la Grèce l'argent qui lui appartient.
Dans la perspective des élections européennes, Jean-Luc Mélenchon a donc souhaité esquisser les contours d'une Europe insoumise.
Sophie Delpont et Gilles Gallinaro à Athènes. Le débat sur le budget de la sécurité sociale l'an prochain. Les députés, la nuit dernière, ont validé le passage de 3 à 11 du nombre de vaccins obligatoires pour les enfants nés après le 1er janvier prochain. Ils ont également voté la suppression de la généralisation du tiers payant à partir du 30 novembre. C'était l'une des mesures phares du précédent gouvernement. En matière de santé. 9h passées de 6 minutes sur France Culture, le numérique et nous, c'est l'heure de la chronique de Catherine Pétillon, consacrée ce matin aux nouveaux instruments du soft power au moment où les États-Unis enquêtent sur la manière dont la Russie a influencé leur élection présidentielle via les réseaux sociaux.
Les hostilités et les échanges d'aimabilité se sont déroulés sur le champ de bataille lui-même, à savoir les réseaux sociaux. La diplomatie russe a qualifié de geste agressif la décision, prise par Twitter ce jeudi, d'interdire l'achat de publicité en ligne aux comptes détenus par les médias russes Sputnik et RT, ex-Russia Today. Twitter les accuse directement d'avoir tenté d'influencer l'élection américaine en agissant pour le compte du Kremlin. Elle se range ainsi à l'analyse que font depuis quelques semaines les services de renseignement américain. Pour ses contenus sponsorisés, Twitter estime avoir perçu près de 2 millions de dollars en 6 ans de la part de RT, somme qu'elle dit désormais vouloir reverser à des chercheurs travaillant sur l'utilisation de Twitter à des fins de manipulation politique. Cette décision intervient quelques jours après l'annonce par Twitter d'une série de mesures plus générales pour améliorer la transparence des publicités politiques sur son réseau, notamment leur meilleure signalisation et davantage de données sur leurs commanditaires et les personnes touchées. En effet, le ciblage permet à un client de payer pour montrer certaines publicités à une partie des utilisateurs selon leur profil, leur localisation, leur historique de recherche, etc. De son côté, Facebook avait reconnu dès septembre avoir identifié plusieurs milliers de publicités payées par une agence proche du Kremlin et contenant de fausses informations. 25 millions de personnes auraient été touchées par ces faux comptes depuis fermés. Comme souvent, ces mesures interviennent alors que les entreprises sont un peu acculées. Leurs réactions ont donc des allures de contre-feu. Mercredi prochain, les deux réseaux sociaux seront avec Google devant le Congrès américain. Ils seront auditionnés par la commission qui enquête depuis des mois sur l'influence de la Russie sur la campagne électorale américaine. En parallèle, trois sénateurs ont déposé au Congrès américain un projet de loi pour contraindre les entreprises numériques aux mêmes obligations que les radios et télévisions. Ce qui est en jeu ici, c'est autant l'évolution des manières dont l'argent peut influencer les échéances politiques que la nature des instruments du soft power, désormais largement numérique, des questions devenues incontournables pour les États.
Le numérique et nous, chronique à retrouver sur franceculture.fr. Les journaux de cette matinée étaient réalisés par Emmanuel Faucillon à 12h30, prochaine édition présentée par Valentine Joubin.